Here's a song that comes from Tanzania.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous, auditeurices de Radio Galère. Nous sommes le mercredi 25 mars 2026 à Marseille. Dominique et Françoise au micro, Swan à la technique, le soleil brille. Bon, je ne vais pas dire que tout va bien, mais au moins nous avons gardé notre mer et tous les oiseaux de mauvais augure peuvent s'envoler vers d'autres cieux, on s'en passera. Alors, à propos du soleil, je vous signale quand même qu'à partir de cet après-midi, grand vent et demain, carrément, vent de tempête. Donc, attention, attachez vos jardinières et faites gaffe quand vous passez sous les balcons. Enfin bon, Paris, Lyon, Marseille vont donc continuer à vivre sans être confrontés aux décisions stupides et discriminatoires des élus d'extrême droite. C'est toujours ça de pris. Arrêtons de tendre l'oreille aux propos alarmistes. Enfin, nous ne tendons pas l'oreille, mais enfin, il y en a qui tendent l'oreille aux propos alarmistes. Donc, luttons dans le réel pour que la vie de solidarité et de partage que nous avons ici continue. Et, bon, jamais tranquille, bien sûr, mais tout de même. Et on en a déjà parlé, sur le plan culturel, des spectacles vivants, des films, des tas de choses intéressantes. Vendredi dernier, j'ai vu des trucs, enfin deux spectacles vraiment très chouettes à la Joliette. Manque de chance, c'est fini. Mais s'ils font des tournées, vous pouvez essayer de guetter un spectacle sur le Liban qui s'appelle « Silence, ça tourne », prodigieux, scotchant, extraordinaire. Et puis, Minga per una casa en ruinas. Alors, excusez-moi, comme d'habitude, quand je parle espagnol, ça a un petit côté italien. Mais enfin, bon, bref, c'est fini aussi à la Joliette, mais ça va passer ailleurs. Et c'est sur le Chili et sur, quelque part, la destruction, justement, que produit la dictature et la façon dont cela détruit aussi les gens. Sinon, bien sûr, la Biennale des Écritures du Réel, je vous en ai parlé, au Théâtre Cité. Et puis, le printemps du film engagé avec, je crois que c'est vendredi au Gyptis, un film sur Georges Ibrahim Abdallah. N'y allez pas tous, parce que sinon, on n'aura pas tous de la place. Mais enfin, bon, allez-y quand même. Et puis oui, j'ai pas eu le temps de demander à ma camarade Françoise là, ce qu'elle en avait pensé, mais... Il passe encore sans doute quelques jours, Orwell 2 plus 2 égale 5, de Raoul Peck. Raoul Peck, c'est toujours un peu léché, un peu propre, un peu... Bon, enfin, c'est du beau cinéma. Mais alors là, on en prend quand même plein les yeux et plein les oreilles. Et il y a des choses, puisqu'il y a beaucoup d'archives dans ce film qui s'appelle Orwell 2 plus 2 égale 5, c'est au fond la démonstration de les copains, faut faire attention à la dictature et faut se méfier avant que ça arrive, parce que quand ça arrive, c'est trop tard. Et c'est vrai qu'il y a des images et des sons dans ce film qui sont là encore scotchants. Donc Orwell 2 plus 2 égale 5, Raoul Peck, ça vaut quand même le coup d'aller voir. Et puis, bien sûr, tout le reste du programme du printemps du film engagé, au Gyptis, au Vidéodrome, à la Baleine, aux variétés, etc., etc. Alors, pour notre émission, je m'éloigne un peu, justement, des combats politiques ou féministes. Ou... Disons plutôt que j'ouvre aujourd'hui des pages plus littéraires, plus métaphoriques sur la nature, justement. Alors, il y a Françoise qui va nous dire des choses.
Je voulais vous citer La guerre des prix.
Ah oui, La guerre des prix, c'est
très bien.
Ah bon, t'as vraiment beaucoup aimé.
Voilà.
D'accord.
Et alors, incroyable mais vrai, j'ai vu un film sur la domination homosexuelle, mais qui est quand même une histoire d'amour et... Mais j'ai plus le titre en tête.
Ah oui, alors là, vous irez voir un film sans titre.
Je vais vous le trouver. Ah ben non, j'ai pas le...
Non, mais la guerre des prix, c'est intéressant parce que c'est sur les systèmes... d'écrasement des producteurs par les centrales d'achat des grands distributeurs. Donc, bien sûr, c'est intéressant, mais on sait que ça existe. Enfin, je veux dire, de voir ça joué par M. Gourmet, Olivier Gourmet, c'est un comédien génial, et comme le dit une des actrices dans le film, il ne sourit jamais. Donc ça finit par être impressionnant, un mec qui ne sourit jamais, oui, c'est en effet un peu éprouvant. Et ce type, c'est une terreur pour les producteurs et pour... Puisqu'il est grand maître, entre guillemets, d'un réseau de supermarchés et donc très influent dans une des centrales d'achat de ces supermarchés. Et évidemment, l'intérêt du film, c'est de voir la façon dont les centrales d'achat des supermarchés écrasent les producteurs. Mais comme je vous disais, malheureusement, on le sait. Alors, si ça vous intéresse d'aller voir comment ils font, bon, bah oui, ok. Sinon... Je suis pas... Enfin, bon, c'est bien, hein, on ne s'ennuie pas, c'est intéressant. Mais ce qu'ils disent, quand même, on le sait. Enfin, je crois que vous le savez, j'espère que vous le savez. C'est pour ça qu'on ne va pas dans les supermarchés, enfin, qu'on essaye d'y aller le moins possible. On boycotte Carrefour pour des raisons politiques, parce qu'ils traficotent avec Israël. Je vous signale aussi que ça y est, Madame Albanaise a sorti un rapport sur le fait que, oui, Israël utilisait systématiquement la torture avec... Les prisonniers palestiniens. Donc, là encore, on s'en doutait. Mais bon, on a la confirmation par une experte de l'ONU que, une fois de plus, Israël viole toutes les règles internationales. Et ben là encore, je ne sais pas, moi, oui, bien sûr, on peut défiler tous les dimanches après-midi à la porte d'Aix. Malheureusement, je pense qu'il faut absolument... si on a des accointances avec des décisionnaires, faire que nos politiques, eux aussi, boycottent Israël. Parce que nous, BDS, oui, bien sûr, nous soutenons BDS, nous n'achetons pas de produits Teva, nous boycottons Carrefour, nous essayons de faire très attention à nos étiquettes, bien sûr. Mais oui, Israël est un État terroriste. Bon, je devrais... Ça y est, je peux le dire, là, les élections municipales sont passées. Mais c'est horrible. Enfin, je veux dire qu'un État et une violence d'État à ce niveau-là se produisent. Ben oui, malheureusement, nous le savons. Nous le savons depuis 1948. Et ça ne s'arrange pas. C'est même de pire en pire. Et le problème, c'est qu'évidemment, le soutien de Trump fait qu'Israël se permet tout et n'importe quoi à longueur de temps et à l'inverse, enfin à l'envers, je pense, des réglementations internationales. Donc, essayons d'agir là-dessus. Oui, pourquoi pas. Et Françoise a retrouvé le titre de son film.
Voilà, c'était dans le cadre du printemps du cinéma. Et comme j'avais un trou entre deux films, je suis allée voir un film hardcore homosexuel, mais qui est aussi une histoire d'amour et d'émancipation, qui s'appelle Pillion.
Alors, Pillion, effectivement, moi, je n'étais pas allée le voir, mais voilà, si c'est bien, c'est bien. Et y a plein de choses à voir, bien sûr. C'est vrai que nous qui fréquentons plutôt le Gyptis, la Baleine et l'Alhambra, nous avons profité du printemps du cinéma pour aller dans les cinémas où d'habitude ça coûte 10 euros. Ben là, ça coûtait 5 euros. Donc, je suis allée, ça doit être la fois unique par année où je vais au Prado ou au Chambord. Et je suis allée aux variétés, j'y vais un tout petit peu plus souvent, mais enfin, étant donné les prix qu'ils font, j'évite.
Ouais. Et je voudrais vous recommander quelque chose qui n'a rien à voir. En face des variétés, il y a une rue qui monte vers le marché des Capucins. Ils ont une pizza succulente dans la rue.
Dans quelle rue ?
La rue qui monte, c'est pas Longe des Capucins, elle a un autre nom que j'ai oublié.
Il y a la rue Thiers ?
Non, en face du variété, un peu plus bas à gauche.
Ah, en face des variétés, oui. Là, il y a un petit bout de rue à côté de chez les flics. Disons, un peu plus bas que chez les flics, puisque les flics sont au coin de Garibaldi de Lieuto et de la Canebière. Ben juste en dessous de chez les flics, il y avait dans le temps la Société Générale, je ne sais pas si elle y est encore. Et là, il y a une rue qui fait le raccord, en effet, avec la place des Capucins.
Puis arrive à la place, il y a deux marchands de pizza, celui du haut, je ne sais rien, mais celui du bas, elle est vraiment succulente, vous avez la portion à 2 euros.
La prochaine fois, elle aura même le nom, hein. Mais alors si j'ai bien compris ces explications, c'est pas Charlie, c'est l'autre. Alors c'est drôle parce que Charlie, évidemment, c'est celui qu'on recommande d'habitude. Alors si c'est l'autre, c'est très drôle.
Mais peut-être que Charlie est très bon, mais là, c'est pas grave.
Nous continuerons à manger nos pizzas. Moi, hier, je suis allée à un camion sur le Prado, puisque justement, je sortais du cinéma du Prado. ce qu'il y a de bien à Marseille, c'est quand même, faut vraiment se remuer pour trouver des mauvaises pizzas. Enfin, je veux dire, globalement, à Marseille, on a des bonnes pizzas, y compris dans les camions de pizza.
Là, la pâte est géniale, la couverture aussi.
À 2 euros la part, c'est très bien. Continuons à manger nos pizzas marseillaises. Il y a Souane qui est morte de rire, là, parce qu'elle se dit, il y a mes petites révolutionnaires qui sont en train de virer à consommons de la pizza. Bah, au moins comme ça.
Entre deux films, c'est pas mal.
Ouais, ouais. Et puis, on ne vous recommande pas d'aller chez McDo, ni dans les tapas qui n'en sont pas. Enfin, bref. Vivons et consommons local. Hein? Alors, tant qu'à faire. Bon, allez, je reviens à des choses sérieuses. J'étais en train de vous dire que j'allais vous lire des textes littéraires et même métaphoriques sur la nature. Le bien-être dans la nature, et ce sont des petits textes, des genres de nouvelles, rassemblés dans un recueil folio, donc chez Gallimard. Ça s'appelle « À nous, la Terre ». Et le sous-titre, c'est « Les écrivains s'engagent pour demain ». Alors, je vais vous faire rire, j'espère. Ça ne date pas d'hier, ça date de 2021. Mais justement, chez Folio, ça doit coûter encore 2 euros. Ah non, 5 euros, ah oui, c'est cher. Bon, bref, on doit trouver ça dans toutes les boîtes à livres de la ville, puisque c'est déjà un peu vieux. Enfin, moi, c'est là que je l'ai trouvé. Mais il y a quand même des écrivains fort recommandables là-dedans. Et j'ai pris 3 ou 4 extraits. J'espère que nous aurons le temps. Le temps passe. J'espère que nous aurons le temps d'en lire 4. Enfin, en tout cas, voilà, dans ce petit livre « À nous, la Terre », les écrivains donnent leur contribution et les bénéfices des ventes sont reversés à WWF. Alors, ce n'est pas révolutionnaire, WWF, mais... quand même, finalement, c'est utile. Et là encore, il vaut mieux faire du bien comme ça qu'autrement. Alors, je voulais commencer justement par un écrivain que j'aime modérément parce que lui, il est quand même très académique et très reconnu par toutes les puissances en place. Jean-Christophe Ruffin, il a été ambassadeur, il est très bien vu par l'Élysée, etc., etc. Mais il écrit bien quand même, ce monsieur. Les glaciers fondent à vue d'œil. Dès que le maquillage de neige disparaît, les reliefs glaciaires laissent paraître leurs grimaces tragiques. Devant chez moi, les pauvres glaciers qui dégringolaient naguère comme un rideau blanc ourlé de sérac tendu sur la crête des dômes de Miage ne sont plus que des guenilles sales, striées par les chutes de pierre. Ce recul des glaciers laisse des traces jusque dans les mémoires humaines. Les plus anciens se souviennent d'avoir fait leur école de glace sur le glacier des Bossons. Alors vous voyez, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que moi quand j'avais, je sais pas, 5 ans, 6 ans, j'allais voir la glace ou toucher la glace ou marcher sur la glace avec mes parents au glacier des Bossons. Alors je reprends Jean-Christophe Ruffin. On l'atteignait en quelques pas à partir du parking. C'est pour ça que mes parents y allaient, parce qu'eux, ils ne marchaient pas beaucoup. Et maintenant, il a reculé si loin, aujourd'hui, qu'on aperçoit à peine son front de sérac depuis le bas, depuis le parking, justement. Ainsi, les êtres humains ont désormais la troublante impression d'être plus vieux que les glaciers, de les avoir vus changer et de devoir assister un jour prochain à leur complète disparition. Cette inversion de l'ordre naturel des choses est encore plus évidente avec les aiguilles de roc. Tout l'effort des humains depuis les débuts de l'alpinisme a consisté à apprivoiser ces désordres de pierre en leur donnant des noms, en y traçant des itinéraires. Ces combes maudites, ces arêtes hérissées, ces faces austères sont devenues le jardin des hommes, le conservatoire de leurs rêves et de leurs victoires, le tableau en relief de leur orgueil. En inscrivant leur nom sur cette indestructible matière, les humains ont cru dépasser leur triste condition de mortel. Alors là, c'est pareil. Hein. Moi, je me souviens de la voix Bonatti. Bonatti, c'était un alpiniste italien de la Vallée d'Aoste. C'était un mec, il montait partout. C'était une araignée des sommets alpins. Et ben voilà, la voix Bonatti, elle a dû dévisser, justement. Alors, voici que, pan par pan, ses gloires s'éboulent. Roulent dans la pente et finissent en poussière. Ces phénomènes, diront certains, ont toujours existé. Les alpinistes et plus encore les villageois des vallées pratiquant la chasse aux chamois ou la recherche de cristaux savent que la montagne est vivante. Elle s'éboule, se transforme. Oui, bien sûr. La nouveauté, elle n'est pas dans les phénomènes eux-mêmes, mais dans leur rythme, dans leurs causes et dans leurs conséquences. Alors, ça, c'était juste le petit message d'introduction de Jean-Christophe Ruffin pour vous dire que, oui, il faut préserver la vie sur la planète. Ça, on le savait aussi. Et peut-être qu'il faudrait adresser ce message aux industriels qui sont avant tout les destructeurs. Parce que ça, je sais, il ne faut pas utiliser sa voiture. Je sais, il ne faut pas prendre l'avion. Mais enfin, c'est quand même globalement pas trop ça qui produit du CO2. Hein. C'est plutôt les grands industriels, les grandes industries, justement. Et les affreux qui se fichent intégralement de détruire les arbres, les glaciers, etc., etc. Par exemple, les fabricants de papier d'Amérique du Nord, pardon. Oui, ça c'est affreux, les usines à papier d'Amérique du Nord. Tous les arbres qui coupent pour ça. Et puis, vous savez, on avait même, à Gardanne, on avait projeté de transformer la centrale au charbon en centrale à bois. Ben oui, sauf qu'il aurait quasiment fallu couper tous les arbres d'Europe pour arriver à produire de l'électricité pendant 10 ans à Gardanne. Alors, faut quand même réfléchir de temps en temps à certains aspects de l'innovation et ben oui, de la prédation de la nature. Alors, on va passer à un truc un peu plus réjouissant et pour changer de nos plages méditerranéennes et de notre côte méditerranéenne, on va vous lire un extrait d'un texte de Catherine Cusset. Bon, ça s'appelle le côté gauche de la plage, c'est assez rigolo. En fait, ça se passe en Bretagne. Alors, je vais passer mon petit livre à Françoise et Françoise va nous lire la plage bretonne. De Catherine Cusset. Voilà, ça commence là. Une plage.
Une plage, la même depuis des décennies. Je passe tous les étés sur une presqu'île où les plages sont nombreuses. Celle du côté de la baie, mieux protégée des vents et des courants, celle du côté de l'océan. Depuis que j'ai l'âge de choisir, je n'en fréquente qu'une. Quand je pense à la Bretagne, c'est à elle que je pense. À sa lumière d'ouest, chaque jour de chaque été ou presque, je fais la même promenade, me baigne au même endroit. Chaque fois, la magie opère, par la grâce de la mer, bien sûr. Mais la mer est partout sur la presqu'île. La mer est la même sur les plages qui bordent la mienne. Pourquoi est-ce sur celle-ci que je reviens? Qu'est-ce qui fait qu'on adhère à un lieu comme à un être? J'hésite à prononcer son nom par crainte de livrer mon secret, même si ma plage se défend contre l'envahisseur. Comme la rose, elle a ses épines. Y parvenir est malaisé. Même si on y va en voiture, après s'être garé, il faut marcher 1 kilomètre sur un chemin sableux cerné de ronces. La mer n'y est pas hospitalière. Ce n'est pas seulement qu'elle est froide, comme partout en Bretagne. Elle gronde et éclate en vagues aussi bruyantes que les aboiements d'un chien qui montre ses crocs. Les courants violents ne permettent pas d'y nager. Un arrêté municipal de 1975, placardé sur le chemin de la plage, y interdit la baignade. Et puis, il y a ceux qui fréquentent cette plage, ou plutôt ce coin de plage, car il ne s'agit même pas d'une plage entière. Je vous en concède les 2/3, peu nombreux. Nus, surtout des hommes. La plupart des gens sont choqués par cette nudité virile et ces mœurs affichées. Je suis tranquille sur ma plage. Malgré tout, j'ai peur de dire son nom, ce nom qui parcourt mon corps d'un frisson qui est celui des prémices de la joie. Le lieu du bonheur, comme le nom de Yahvé, doit être tu. Je l'appellerai Porc-Crac. Je bénis le mauvais temps qui gâche les mois d'été, même si j'aime aussi les heures douces précédant le coucher du soleil à 10 heures du soir. Grâce à tous ces étés pourris, il y a de moins en moins de monde sur ma plage. Petite, j'y suis allée, rarement, pique-niquer avec mes parents. J'ai souvenir de dunes peuplées de vacanciers. Les photos dans l'album de famille en fournissent la preuve. Ces mêmes dunes, aujourd'hui, sont presque désertes, même par beau temps. JP et moi, quasi seuls sur la plage par un dimanche ensoleillé d'août, nous sommes regardés en haussant les sourcils. « Ce n'est plus ici que ça se passe », a-t-il dit. « Ils ne nous ont pas dit où ?» Cette plage, où je vais depuis 35 ans, est pleine de souvenirs d'amour, d'amitié, de désir, de rire, de peur. Le bonheur, c'est aussi cela. une strate de souvenirs qui finissent par former un roc auquel l'âme peut s'amarrer par tempête et qui, giflé par les vagues et battu par la pluie, se dresse, inaltérable, inamovible, tels ces trois rochers ronds qui se profilent sur la droite à l'horizon de ma plage et qu'on appelle les tas de pois.
Mais les tas de pois, il y en a partout en Bretagne, c'est ça qui est drôle. Mais ça fait rien, continuons, il y a évidemment plein de rochers de granit usés et arrondis. Alors des tas de pois, il y en a plein, continuons avec les tas de pois.
Mais quand j'ai choisi cette plage, elle était vierge de mes souvenirs. À 15 ou 16 ans, je quittais la maison que nous louions dans le village et je marchais 6 ou 7 kilomètres sur la route en goudron pour atteindre la falaise et descendre vers ma plage. J'allais du côté gauche. Le bonheur, c'était d'y aller seul et de me baigner nu.
Eh oui, le côté gauche de la plage. Oh non, c'est là.
Ce n'est pas de l'impudeur, de l'exhibitionnisme. Nu, le corps retrouve un état d'avant la sexualité. Paradisiaque était l'état d'innocence. Personne ne me regarde, sauf peut-être un voyeur caché dans les dunes. Ce gros type qui me suit jusqu'à l'eau et se poste à quelques mètres de moi me dégoûte. Mais je ne le laisse pas me gâcher mon bonheur. Il n'est pas dangereux. Son plaisir, c'est de mater. Je ne fais pas attention à lui. Dans une minute, je serai sous l'eau. Il ne verra plus rien. Quant aux homos, pour eux, je suis invisible. Ils ne me gênent pas. Je me déshabille sans hésiter. Pour avoir moins froid, je cours vers la mer. À marée basse, je passe par les marques que forment les creux du sable pour familiariser mes pieds avec la fraîcheur de l'eau, tout en sachant que la mer aura quelques degrés de moins. Le premier contact est cruel. Je saute pour échapper aux vagues qui éclatent contre mes cuisses. L'une d'elles éclabousse mon ventre et m'arrache un cri. Frileuse, peu courageuse, j'ai du mal à rentrer les mains dans l'eau glacée pour asperger mon visage et frictionner mon cou, mes épaules et mon ventre. Je plonge enfin dans une vague, un congélateur. Le froid pince mes tempes. Entre deux vagues, je m'immerge pour m'habituer au froid, tout en guettant la prochaine du coin de l'œil. Je la vois enfler. J'allonge mon corps juste avant qu'elle éclate. Je la pénètre tête la première comme une balle de fusil. Je la transperce. Je la laisse me secouer, me tournebouler. Je me cogne contre elle. Je lui saute dedans. Je l'attaque. J'ai l'impression qu'elle me gifle, qu'elle cherche à m'assommer. Je joue avec elle. Je me bats contre elle. Je la cogne. Je m'y donne à corps joie. J'éclate de rire, seule, comme une folle. Parfois, même, je lui parle. Je la défie. Au cinquième ou sixième plongeon, mon corps s'est habitué. Je la trouve presque chaude. Elle est bonne aujourd'hui, 18 degrés au moins. Tandis que mon cœur, replié sur lui-même, attend la vague, je vérifie du bout du pied que le sable est là et me redresse pour m'assurer que la mer m'arrive à mi-cuisse et que je pourrai en extraire ma jambe au besoin. Les talons plantés dans le sable, je sens le reflux qui m'entraîne. Il y a ici et là des creux dans le sable, des baïnes où l'on peut perdre pied. Il y a longtemps, le courant m'a empêché de revenir. Je m'étais avancé trop loin. J'avais de l'eau jusqu'à la poitrine. Il ne servait à rien de nager. La mer était devenue une implacable ennemie. J'ai crié. Je n'étais pas seule ce jour-là. Mes amis ou mes cousines ont fait la chaîne en se tenant la main et attrapé la mienne pour me tirer. Quand je sors de l'eau, quel que soit le temps, je n'ai pas froid. Sauf si je suis restée trop longtemps. Le corps est comme insensibilisé. Je torsade mes cheveux pour les égoutter. Je marche vers le sable sec. Je me sens purifiée de mes soucis et de mes peurs. Plus rien n'a d'importance, donc je suis forte et belle. Je suis Vénus qui sort de l'écume des flots, même avec du poil aux pattes, même avec des bourrelets, même avec ma peau blafarde tout l'été. Belle d'une beauté native en harmonie avec la beauté brute de la plage. Rayonnante, sans défaillance, narcissique, sans vide. Heureuse, donc objet de désir. Mes yeux du même bleu que la mer, mes cheveux blondis par le sel. Mon corps a désiré sur cette plage, beaucoup, quand j'étais jeune. Mais le désir n'y a jamais été essentiel, juste un complément. Porskrak est le lieu où je me réconcilie avec mon corps, où la honte ne m'atteint plus. Un jour, où je jouais au beach ball avec une amie qui avait gardé son maillot de bain, des gamins traversant la plage nous ont encerclés. « Allez, maillot noir, allez, nature, allez, la moule !» Nature, la moule, c'était moi, j'ai ri. Comment livrer aux mots, à leur déroulement temporel, une vision que le regard saisit en un instant? La première fois, il faut arriver par le hameau de Porcrac, une quinzaine de pentis en
oui,
pierre.
Oui, des pentis, c'est des petites maisons bretonnes.
Une quinzaine de pentis en pierre du pays, perchés sur la falaise, dernière construction humaine avant la lande. De là-haut, on surplombe la plage, les plages, celles de Porcrac et de Mendou. En un coup d'œil, on embrasse une immensité de landes, de sable et d'eau, que seule borne la rencontre du ciel et de la mer. C'est une immensité contenue par les falaises qui s'avancent dans la mer et forment de larges anses que les vagues viennent lécher, un infini limité. Nombreux sont ceux qui préfèrent sur la presqu'île le côté de l'île Vierge. Depuis le sentier côtier sur la falaise, la mer d'un bleu turquoise est si limpide et lisse qu'on a l'impression d'être au bord de la Méditerranée. Impression que renforcent les pins qui furent plantés ici par erreur. Porcrac, c'est autre chose. Pas une carte postale, pas une vision statique, mais un mouvement. On dirait que la mer monte à l'assaut de la terre, pénétrant les anses à coups d'immenses vagues aux larges crêtes d'écume fumante comme les narines d'un taureau furieux. L'heure râle est si fort qu'il assourdit tout bruit. L'heure la plus belle est celle précédant le coucher du soleil, quand la lande tout entière baigne dans une lumière dorée. Par mauvais temps, le noir des falaises et le blanc des vagues en colère se détachent sur les gris du ciel ou de la mer. Devant cette lande secouée par le vent, cette plage où les silhouettes de promeneurs ont l'air de minuscules figurines de Giacometti, ces falaises à la roche noire pleine d'anfractuosité, où pousse ici et là une touffe d'herbe verte, ces nuages que déchire le soleil dardant ses rayons sur la mer, on éprouve à la fois le sentiment de notre impuissance face à une force informe qui nous renvoie à notre petitesse et notre finitude, et l'exaltation d'être le spectateur de cette force éternelle. Ce n'est pas beau, c'est sublime.
C'est sublime, oui, sur la côte océane de la presqu'île de Quiberon, mais c'est sublime aussi en Méditerranée, hein. Oui, oui, c'était beau. Et alors, pour rester dans ces transports que nous procure la mer, parce que bah, ici aussi, hein, quand on a envie de respirer, on va au bord de la mer, on va marcher au bord de la mer, on va, par exemple, au Goude ou sur les îles, enfin, on retrouve justement cette sensation nature. Alors, on ne va pas reprendre précisément ces sensations nature de Eri De Luca, parce que là, son texte est tout court et un peu frustrant. On va en prendre d'autres. Mais avant, ben, on va laisser, non pas la parole, mais la musique à Debussy. Vous savez bien que Debussy a écrit « La mer ». Alors, on va écouter un petit morceau de « La mer » de Claude Debussy, interprété par l'Orchestre de France, l'Orchestre de Radio France, dirigé par Myeon Woon Chung. Alors, merci Swan pour 3 minutes avec la mer de Debussy. Je vais un tout petit peu reprendre ce que je disais. Je parlais de Debussy, donc c'est pas irremplaçable, hein, c'est pas grave. Je vous invitais à aller écouter Debussy. Et ben, je continue à vous inviter à écouter Debussy. Et je vais quand même reprendre la lecture de la suite de notre recueil qui s'appelle « À nous la terre ». On avait écouté tout à l'heure Françoise dans la lecture d'un extrait de Catherine Cusset sur, bien sûr, la mer. Et moi, je vais vous lire maintenant un petit extrait d'un auteur qui s'appelle Jean-Baptiste Delamo. Je vous indiquerai dans le... dans les petits comptes rendus que je donne sur le site de Livres et Amis, je vous indiquerai qui est ce monsieur. Et en tout cas, lui, il nous parle de son contact avec la nature et à travers les animaux. Parce qu'il considère que, bien sûr, les animaux étaient là avant nous, que vraisemblablement, ils seront là après nous. Enfin, il y en aura sûrement qui survivront quand nous aurons fini de vivre sur Terre. Et il nous parle de tout ça, de ses expériences avec les animaux quand il était enfant, plus tard adolescent. Et puis, justement, il nous parle d'une éventuelle fin du monde. Enfin, on va voir ça. Toujours dans l'enfance, le surgissement de l'animal était un événement. Il suscitait mon exaltation et l'intérêt bienveillant de mes parents. La rainette trouvée à l'ombre du volet à l'heure de la rabattre, le grillon que j'avais appris à déloger de son terrier à l'aide d'une tige d'herbe verte, le crapaud ou le hérisson qui traversait le jardin au soir des nuits d'été. Avant moi, mon père adolescent passait des heures à chercher des couleuvres près des viviers d'eau de la petite ville de province où il avait grandi. J'aimais les récits de ses chasses et je me souviens d'une photo de lui tenant fièrement une jeune couleuvre à collier. C'est lui qui m'a tôt appris à distinguer une vipère d'une couleuvre, une grenouille verte d'une grenouille rieuse. D'aussi loin qu'elle remonte, la mémoire familiale dit combien j'ai nourri pour les bêtes une indéfectible passion. Je les ai observés, capturés, hélas blessés ou tués parfois. J'ai tenté de les conserver dans un nombre incalculable de cages, d'aquariums, de pots de confiture aux couvercles perforés, de terrariums improvisés, de bassines aménagées. J'ai voulu recréer des biotopes à l'échelle d'une cuve minable, mélangeant les espèces que je ramassais dans les flaques et les fossés, dytiques, tritons, têtards. J'ai souvent fait, à leurs dépens, l'expérience de ma cruauté. Alors là aussi, hein, je trouve ça très drôle parce que ça me parle complètement, ce texte. Moi, quand j'étais gamine, j'allais au bois de Boulogne ou au bois de Vincennes, puisque j'étais parisienne, ramasser dans les espèces de petits cours d'eau bizarres qui sont là, complètement artificiels, des têtards ou des bestioles. Et puis, je les mettais dans des pots et je les apportais à mes institutrices, à l'école primaire. Elles ne savaient plus quoi faire de mes bocaux. Il y avait des pots partout, sur tous les hauts d'armoire, dans mes salles de classe. Alors, évidemment, à la fin de l'année, les institutrices, elles jetaient le contenu des bocaux. Donc, ce que dit Jean-Baptiste Delamo, c'est vrai que nous avons détruit des petites bestioles quand nous étions petits. Et il y a même Françoise qui va vous dire aussi ce qu'elle faisait quand elle était petite.
Oui, nous aussi, on a trouvé magnifiques des petites rainettes vertes et on avait un immense papyrus. On habitait au Corbusier et le papyrus montait plus que sur un étage puisqu'il y a un double étage au Corbusier dans certains appartements. Et donc, on a amené les petites grenouilles vertes dans le pot de notre papyrus où on mettait plein d'eau. Et à ce moment-là, on s'est renseigné, on a su que ça mangeait des animaux vivants, ces petites bêtes. Et donc, je suis allée au CNRS prendre des phasmes que nous avons apporté pour que les grenouilles les mangent, mais on n'a pas fait ça très très longtemps.
Et donc les petites grenouilles ont disparu aussi, comme moi mes têtards. Vous voyez, on est en train de faire des souvenirs d'horreur, là, c'est pas grave. Alors, reprenons Jean-Baptiste Delarnaud. J'ai passé des après-midi, des jours entiers à les rechercher, ces petites bestioles. Rien ne me réjouissait plus et j'en délaissais la compagnie des autres enfants. Dans les mêmes années, mes parents m'avaient inscrit à des cours de tennis. Le terrain était situé à deux pas du cimetière du village. Et dès l'arrivée des beaux jours, je trouvais toujours le moyen d'échapper à l'attention de l'éducatrice pour me précipiter dans ce fameux cimetière et passer l'après-midi à chasser les hordes de lézards qui se chauffaient sur le marbre des tombes. J'ai aussi le souvenir d'un anniversaire à l'une des fermes du village, durant lequel je n'ai pas joué un instant avec les autres enfants. Il me fallait à tout prix parvenir à capturer un grand lézard vert à la gorge d'un bleu électrique, bien plus véloce que ses cousins des murailles. Et bien avant, dans ma première année de maternelle, afin de calmer mes pleurs lorsqu'on me laissait à l'école, les dames de service m'apportaient chaque jour, dans un bocal, un ver de terre, un hanneton ou une sauterelle qui suffisaient, les uns ou les autres, à me distraire et à libérer ma mère pour qu'elle s'échappe sur la pointe des pieds. J'avais 3 ans à peine et c'était le seul moyen de me faire taire. Rien d'autre n'existait à l'époque que l'animal qu'on me donnait à voir ou qu'il m'était possible de poursuivre. En grandissant, de toutes les bêtes qui peuplaient notre campagne, notre jardin et qui me fascinaient, sans exception, c'est le serpent. Le serpent est vraiment l'animal que je plaçais au-dessus des autres. Voir filer une couleuvre entre mes pieds, dans l'ornière du ruisseau ou à la surface d'un petit lac, me procurait une joie inégalable. Souvent, les couleuvres que je parvenais à saisir n'étaient que des serpenteaux, des petits de couleuvres à collier qui me mordillaient les doigts ou les poignets, puis renonçaient et se laissaient finalement glisser d'une main à l'autre ou dans mon cou ou sur mon t-shirt avant que je me résigne à les relâcher. Et oui, parce que là, c'est pareil. Hein. Moi, j'avais un copain, il dormait avec les lézards qu'il avait attrapés, mais évidemment, au matin, les lézards avaient fini écrasés dans le pyjama. J'aimais la présence du serpent. Le contact de la peau fluide et tiède, le noir bleuté de la langue bifide qu'il promenait sur le dos de mes mains. Entre tous les animaux, si le serpent me fascinait, c'est qu'il incarnait la bête de l'ombre. Non celle de la nuit, mais celle que l'on ne perçoit qu'à la dérobée, du coin de l'œil ou par hasard, au détour d'un chemin en soulevant une pierre. Celles qui bruissent dans les hautes herbes et fuient sans être vues, glissent dans les tourbes aux abords des mares et disparaissent dans les algues et les lentilles d'eau près de la mer. La campagne offrait l'occasion sans cesse renouvelée de la rencontre avec les animaux. Il n'était pas rare que je rapporte à la maison une buse blessée, une jeune chouette tombée du clocher de l'église, un lapereau atteint de myxomatose, un petit ragondin trouvé au bord d'un fossé et aussitôt installé dans la baignoire. À 10 ans, je lisais et relisais jusqu'à user la tranche des guides ces petits volumes sur les animaux de nos régions. J'étudiais inlassablement la taxonomie, les ordres, les familles, les genres et les espèces. Les noms communs et les dénominations latines me semblaient receler une poésie mystérieuse. Natrix natrix, Apis mellifera, Salamandra salamandra, Arareus diadematus, Solenopsis invicta, alors ça je ne sais pas ce que c'est, Pipistrellus pipistrellus, ben ça je sais, oui, et j'adore les chauves-souris. Alors, dit-il, leur présence alentour, notre coexistence au monde, était un émerveillement. Bien sûr, plus tard, les causes et effets du réchauffement climatique ont déjà joué sur cette vie animale et détruit une partie de cette vie animale. Je me souviens avoir eu connaissance de l'existence de trous dans la couche d'ozone à un moment donné. Le journal télévisé en parlait de temps à autre et c'était une mise en garde dont à l'époque nous ne percevions pas encore les enjeux. Et puis à l'école, nous avons appris que le soleil un jour grossirait, devenant une géante rouge qui engloutirait la Terre, Mercure, Vénus, Mars peut-être, avant de s'effondrer lui-même puis de s'éteindre. Cette perspective nous effrayait, mais nous avions quand même 1 milliard d'années de sursis. Et bien qu'impossible à concevoir pour l'enfant que j'étais, ce délai suffisait à apaiser mes craintes. Nous entendions parler du Koweït, de la Tchétchénie, de Sarajevo, du Rwanda. Et tout cela, finalement, nous semblait appartenir à une autre réalité que la nôtre, une réalité qui ne nous menaçait pas vraiment. Le réchauffement climatique, c'était un peu la même chose. Nous n'avions qu'une vision réduite, étriquée du monde que nous habitions et finalement, les territoires lointains ne nous émouvaient pas vraiment. aussi terribles soient-ils, les événements de la planète ne nous affectaient pas autrement que par leur irruption cathodique à l'heure du dîner. La fin du monde, bon, cela semblait bel et bien un horizon inatteignable. Et finalement, c'est à l'échelle des animaux que nous nous sommes aperçus, oui, qu'il y avait vraiment des choses qui se passaient et que la vie commençait à s'éteindre. Nous avions joué en toute insouciance dans les champs d'un vert uniforme, mais bombardé de pesticides. Et la température moyenne annuelle connaissait, depuis le début de la décennie 80, une augmentation continue sans précédent. Poussée par l'essor de l'aéronautique, la banlieue toulousaine où nous habitions répandait dans la campagne des métastases urbaines incontrôlées, alternant zones commerciales et lotissements dortoirs. Le 31 décembre 1999, tandis que le décompte de la dernière minute de l'année s'affichait sur les écrans de télévision et que les premières images de l'an 2000, déjà atteints sous d'autres latitudes, étaient retransmises dans les foyers français, j'ai eu la vague appréhension que les prévisions apocalyptiques pour le passage au nouveau millénaire puissent se réaliser. Mais bien sûr, nous avons survécu et le problème, ce n'était pas le passage d'une année à l'autre. Le problème, c'est la disparition de la nature dans certains endroits. Nous, oui, nous ne craignions rien, mais tout de même. Si les villes d'Auge, Condom, Mirande ou Marmande, proches desquelles nous vivions, ne risquaient pas grand-chose, quelque chose vacillait sous nos yeux, la vie même, et nous étions aveugles à ces modifications. L'enfance et l'univers qui la berçait devaient pour nous durer toujours. Oui, nous serions toujours des enfants, nos parents auraient toujours 30 ans, ma mère serait toujours là pour me câliner lorsque j'aurais peur. L'univers continuerait à être magnifique et intouchable. Et autour de nous, le monde et la vie dans leur multitude, les petites vipères, dorées au soleil ou cachées sous les pierres, l'incroyable variété du chant des oiseaux, le cœur tiède et secret des forêts, tout cela nous paraissait éternel. Alors, est-ce aujourd'hui d'avoir vieilli ? Les guerres me semblent maintenant infiniment plus proches. Le réchauffement climatique n'est plus cette lointaine et improbable menace. Nul doute qu'un jour, notre planète aura brûlé, oui, et que déjà, 68% des vertébrés ont disparu de la Terre depuis 1970 et 43 millions d'hectares de forêts ont été détruits en seulement 13 ans. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des fabricants de papier d'Amérique du Nord, mais c'est exactement ça. L'Amazonie disparaît, les forêts d'Amérique du Nord disparaissent, bah oui, au profit de ceux qui fabriquent je ne sais trop quoi ou au profit de ceux qui font de la déforestation pour faire autre chose, par exemple élever des bœufs qui iront dans les McDonald's. Ça, c'était une parenthèse de Dominique. Aujourd'hui encore, mes plus grands moments de bonheur sont ceux où, dans le Gers ou en Touraine, je tombe nez à nez avec un serpent. Eh bien oui, même maintenant, il y en a encore. Lorsqu'il m'arrive de le saisir, je retrouve, par la procuration du souvenir, le bonheur du petit garçon qui saisissait le serpenteau et le portait à son cou. S'il m'était donné aujourd'hui de pouvoir parler à cet enfant-là, lui dirais-je ce que je sais aujourd'hui ? Que tout est extraordinairement fugace, que rien ne dure, que même si la fin du monde n'adviendra que dans un milliard d'années, ce qui se produit sous nos yeux à l'instant, c'est peut-être pire, et que pour chasser des couleuvres ou des lézards, en effet, ce n'est pas trop grave, mais que ce qui se passe à l'échelle de la planète, c'est autrement plus important. Comment faire pour protéger le monde ? Comment faire pour préserver l'extraordinaire fragilité des vies minuscules et des cœurs battants qui nous environnent ? Ou bien faut-il se taire ? Non, sûrement pas, même si nous croyons que l'éternité est encore possible. Donc, tirer la sonnette d'alarme, oui, tirer la sonnette d'alarme pour la vie dans la nature. Ben, c'est un peu ce que font d'autres auteurs. Là, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de Je sais jamais, c'est Jean-Christophe Ruffin, oui. Jean-Christophe Ruffin qui parlait des Alpes. Il y a un autre extrait dans notre livre qui est de Luc Lang et qui parle des Pyrénées. Et qui nous dit que, ben oui, pareil, hein, les Pyrénées, c'est un univers qui disparaît, entre guillemets. Alors, je ne parle pas des déclarations politiques du genre de « il n'y a plus de Pyrénées ». Qui est-ce qui a dit ça? C'était un président de la République qui a dit ça. Il n'y a plus de Pyrénées. C'était c'était peut-être Colbert. Quand Louis XIV a épousé Marie-Thérèse, il n'y avait plus de Pyrénées. Hein. Alors si, heureusement, les Pyrénées sont encore là. Mais les Pyrénées, comme d'autres milieux naturels, sont bien sûr mis à rude contribution. Et vous savez qu'il y a des activistes de la nature qui se sont battus. Hein, pensons à... Quel est le prénom de Fraisse enfin, pensons en tout cas à ces jeunes activistes qui se sont durement confrontés à la police et aux gendarmes pour protéger justement la vie dans les Pyrénées. Et Françoise a encore des choses à nous dire. Ah oui, soulèvement.
Soulèvement.
Donc, si vous n'avez pas vu Soulèvement, allez voir Soulèvement, en effet, parce que dans Soulèvement, vous aurez des superbes images des jeunes et moins jeunes qui se battent pour préserver une nature à peu près naturelle, qui se battent contre les méga-bassines, qui se battent contre... Dans les zones à défendre, dans les ZAD. Alors, continuons en effet à défendre les ZAD et avec Luc Lang, continuons à défendre les Pyrénées. Alors, on n'a plus beaucoup de temps pour lire en entier son texte. Je vais vous lire des petits morceaux qui nous font partager le plaisir de la nature, même quand on y part pour faire du camping. Le chargement est lourd. Tente, duvet, ravitaillement, réchaud. C'est une marche aujourd'hui dans la nuit jusqu'avant l'aube et elle progresse le long d'un vallon encaissé. Elle traverse un gave d'encre bouillonnant qui festonne les rochers noirs d'une écume laiteuse. Notre sentier enjambe, saute d'une pierre à l'autre et puis nous sommes ensuite emportés par le poids des sacs, par cette poussée têtue vers les pierres mouillées. Nous courons pour rétablir notre équilibre. Nous nous retrouvons sur l'autre rive, spongieuse. Ouf, nous soufflons et nous repartons en bougonnant pour avoir ainsi un peu bâclé les paquetages. Dans le pli des montagnes, la nuit pèse encore sur le milieu du ciel, mais c'est une voûte plus pâle, plus mate, les étoiles s'y consument. Nous laissons sur la gauche le col de la Gela et nous poursuivons tout droit en pente douce à travers les éboulis où il faut marcher en zigzag. Nous parvenons sur la Ourquette de Charmentas, il est déjà 7 heures, et tout à coup, un sentiment de « non, je ne suis plus seule ». Je crois deviner, je prends mes jumelles. Oui, là-haut, il y a un groupe d'isards, au pelage brun-roux. Ils bondissent de roche en roche. Oui, bien sûr, cette vision me fait sourire. Et le soleil, soudain rasant, les fait jaillir dans la lumière, puis les emporte. Je sors ma bouteille thermos du sac, je prends ce thé brûlant que j'ai préparé, une vapeur s'en dégage, je bois à petites gorgées et même j'humecte mon visage. Je découvre peu à peu les gradins de roches humides et glissantes où je dois assurer mes pas. Et puis je quitte ce passage dangereux, le soleil inonde la chaîne montagneuse. Je foule maintenant un plateau d'herbes rases semé de roches, un gazon tendre où la marche devient silencieuse, ne laissant aucune trace. La température monte, quelques lambeaux de nuages cotonneux ornent les crêtes sur un ciel d'azur. Les jambes deviennent souples, le corps se réchauffe lui aussi et nous nous sentons portés par le commencement du jour. J'allonge le pas dans la faible déclivité qui mène vers la vallée de Heas. L'attaque du talon plus franche, la plante du pied foulant le sol. Quelle onde souple, quelle onde ample rythme ma respiration. J'avance dans l'étendue ouverte, avec derrière la masse ténébreuse du soum des salettes, mais avec devant cette ouverture vers la crête accidentée du pic de la Cède. Et tout s'enflamme soudain. par le reflet du lever du soleil jusqu'à un blanc incandescent. Je déjeune sur, un peu plus tard, un vaste rocher plat chauffé par le soleil. Je croque une pomme et j'observe aux jumelles, à nouveau, trois rapaces cette fois-ci, de grande envergure, sans doute des vautours moines, immobiles et déployés dans le ciel, qui s'élèvent en large cercle, s'appuyant sur les masses d'air chaud qui montent du plateau. J'ai remplacé le bonnet par un chapeau à large bord et je suis à l'abri. J'ai tout de même avec moi un GPS paramétré et je continue tranquillement ma marche vers la cabane pastorale de l'Aguila que le ciel me découvre tout à coup, mais un ciel de l'autre côté encombré d'épaisses nuées noires qui affleurent les sommets, comme si les pics granitiques s'effritaient en tourbillons de poussière. Eh oui, c'est très beau, hein. C'est un petit peu comme tout à l'heure les Alpes dont on pleurait la modification. Eh bien là, les Pyrénées nous donnent des images absolument merveilleuses sur précisément cette présence de la nature et ce bonheur dans la nature. Alors je voudrais juste pour clore évoquer un texte d'un écrivain américain, c'est Ron Rash, qui a écrit une petite nouvelle qui s'appelle Kefart. Et alors, j'en prendrai quelques lignes parce que j'ai trouvé ça très drôle. Figurez-vous que dans la nouvelle, Kefart, il est ancien bibliothécaire et il marche dans la nature américaine pour échapper justement à sa bibliothèque. Vous savez, un petit peu comme, vous vous souvenez, il y a quelque temps, on avait lu... des extraits du prix Nobel de littérature. Alors, excusez-moi son nom, je crois que c'est Laszlo Krasznahorkai, voilà. Et c'était petits travaux pour un palais. Alors, ces petits travaux pour un palais de Krasznahorkai, ou même le personnage de Bartleby, le personnage, disons, décrit par Melville, c'est ces intellectuels qui travaillent donc dans des bibliothèques ou dans des bureaux et qui tout d'un coup ont la révélation de la vie parce qu'ils s'échappent dans la nature. Et alors le héros, Horace Kefert, donc, de Ron Rash, notre bibliothécaire, il devient fou dans sa bibliothèque. Alors, je vais pas vous lire les extraits où il ne supporte plus effectivement le contact des livres parce que c'est pas très bien dans ma vie hein, quand même. Si le contact des livres rend fou, je suis mal barrée. Mais en tout cas, il s'échappe dans la nature et figurez-vous que ce personnage, il est fondé sur un personnage réel, enfin donc une personne réelle. Qui était en effet bibliothécaire enfin dans l'État de New York et qui a fondé aux États-Unis l'association de protection des grands parcs. Il a fondé le grand parc des Adirondacks et il a réussi à faire financer par tout un tas de gens de l'État le grand parc des Adirondacks. Parce qu'il a montré à ses contemporains, c'était au début du XXe siècle, qu'il fallait pouvoir s'échapper dans la nature et que justement, il fallait, par exemple, dans les Smoky Mountains, précisément protéger la nature qui déjà à l'époque était mise en danger par les mines, l'industrialisation, etc. Donc c'est assez phénoménal quand même de voir qu'il y a des gens... Alors lui, il disait... La nature m'a sauvée, je veux sauver la nature. Donc, il y a des gens qui, en effet, continuent de combattre pour sauver la nature. Et je vous invite, puisque je parlais tout à l'heure de lutte, je vous invite aussi à lutter pour la préservation de la nature, de nos belles rives méditerranéennes, par exemple, de nos montagnes, etc., etc. Et à nous retrouver, bien sûr, la semaine prochaine avec d'autres aventures marseillaises ou plus lointaines. Alors, bonne journée, continuons le combat, bien sûr, allons voir des films ou des pièces engagées. Tout va bien !